Parmi toutes les occasions que propose le Muséum national d'histoire naturelle de s'intéresser au vrai sujet, ce cycle de 5 conférences intitulé « La biodiversité dans la ville ». Trop tard pour les écouter, elles seront retransmises en intégralité sur le site du Muséum. En avant-goût, cet entretien avec Patrice Notegem, chargé de mission développement durable pour la communauté Le Creusot-Monceau-les-Mines, venu présenter la préservation conjointe de la ressource en eau de la biodiversité, le cas de la politique de la communauté urbaine Creusot-Monceau.
Qui a omis de suivre les lundis du Muséum national d'histoire naturelle a beaucoup manqué. Séance de rattrapage sous peu, directement sur le site du Muséum, pour écouter ce cycle de 5 conférences consacrées à la biodiversité dans la ville. Exemple, Monceau-les-Mines. A priori, pas tout à fait un lieu de villégiature et même l'emblème que le Creusot de la nature dégradée, telle une rançon normale à l'industrialisation minière de surcroît. Pourtant, le Creusot est de moins en moins ce que l'on croit. Bien sûr, d'un côté, la Saône est génialement transformée en une série de bassins, de l'autre, la Loire, laissée en l'état, et au milieu, la construction d'un non moins génial canal pour en profiter, sans avoir à l'époque songé que des moules zébrés venus de l'Est allaient en profiter, et des impatiences, ces jolies fleurs venues de l'Ouest, elles, arrivées vraisemblablement par les sabots des chevaux de halage, allaient proliférer. Bien sûr, aussi, l'eau potable a été, par exemple, la condition sine qua non imposée alors par Michelin pour venir s'implanter dans la région. Mais depuis la création de la communauté urbaine en 1970, depuis aussi le diagnostic territorial de la biodiversité établi en 2007, les choses ont bien changé, pour du mieux, malgré toutes les complexités. Patrice Notegem, chargé de mission développement durable à la communauté urbaine du Creusot-Monceau-les-Mines.
Je suis chargé du développement durable à la communauté urbaine du Creusot-Monceau en Saône-et-Loire.
Le fait d'être ce soir dans le cadre des lundis du muséum, honnêtement, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être, j'allais dire, un hamburger de la pire espèce dans un magasin bio?
Non, je ne pense pas. Pourquoi vous me posez cette question? Parce que notre territoire est un territoire très marqué par son influence sur le milieu.
Quand on parle du Creusot et qu'on parle de Monceau-les-Mines, on ne voit pas bien le lien avec le développement durable, avec la nature. C'est plutôt emblématique de la révolution industrielle et puis de la crasse, allez.
Bien sûr que ce sont des territoires tout à fait emblématiques de l'industrialisation en France et en Europe, mais partout où qu'on soit, la biodiversité s'exprime, même dans un milieu extrêmement urbanisé et industrialisé. Mais tout de même, ce qui me paraît important, c'est que pour vivre, une ville, des citadins et des activités industrielles ont besoin d'apports qui viennent de la périphérie, tout à fait essentiels, tant en ce qui concerne l'alimentation ou l'approvisionnement en eau. Eau pour l'industrie, eau pour les activités domestiques et eau pour la consommation humaine. Et cette eau qui nous préoccupe tant, dont nous avons tellement besoin, pour ce qui nous concerne, les réserves sont situées dans des espaces tout à fait riants, hors influence directe de l'activité industrielle. Mais ça veut dire que ces villes et ces industries sont allées mettre dans des endroits préservés les équipements dont elles avaient besoin.
J'ai pas dit que la région était pas belle, c'est pas ça. Mais pour quelqu'un qui la connaît pas du tout, disons d'un côté, il y a la Saône qui est totalement aménagée, la Loire qui ne l'est pas, et au milieu, il y a cette région qui est la vôtre.
Entre les deux, entre la Saône et la Loire, au niveau du département de Saône-et-Loire, il y a ce petit secteur dans lequel à l'origine il y avait du charbon qui a été au démarrage du développement de cette urbanisation et de cette industrialisation qui a tant marqué les paysages localement, mais dans un espace qui est hors ses activités industrielles, un paysage rural avec un paysage de bocage herbagé et des troupeaux de bovins qui paissent tranquillement. Mais il est vrai que l'impact des villes et de l'industrie sur les milieux a été très fort. Il est vrai que c'est un impact est en train d'être résorbé parce que les préoccupations environnementales sont quand même fortes et qu'on a davantage de soucis de la préservation des milieux, des rivières, des écosystèmes. Et puis il est vrai qu'un certain nombre d'activités ont disparu, remplacées par d'autres qui sont moins dommageables localement, quoi.
Est-ce que c'est forcément, est-ce que l'anthropisation est forcément un mal après tout ? Il y a des exemples que vous avez donnés qui sont assez intéressants, parce que par les fleuves, par exemple, il y a la faune est arrivée plutôt par l'est, la flore plutôt par l'ouest, l'impatience par exemple.
Oui, mais ces espèces dont j'ai parlé qui sont arrivées là, on serait bien passé de leur présence, parce que ce sont des espèces exotiques qui viennent perturber la faune et la flore indigène, locale. Ce sont des espèces que l'homme a favorisées par ses équipements de transport et puis par des conditions locales qui parfois dégradées, qui leur ont permis de s'installer. On serait bien passé de la présence de certaines espèces. Je pense qu'il est important de conserver des bonnes conditions de milieu au bénéfice des espèces qui sont logiquement présentes.
On se serait bien passé des moules zébrées de l'Est et des impatiences de l'Ouest. La communauté urbaine, quel est son rôle ? Vous en faites partie ?
La communauté urbaine, c'est une intercommunalité, c'est la forme d'intercommunalité la plus intégrée, la plus forte, qui a le plus de compétences. Elle a des compétences en matière de transport, d'enseignement supérieur, de développement économique, ainsi de suite, mais aussi sur l'eau et l'assainissement. Moi, je suis chargé en tant qu'agent. Je mets en œuvre une politique décidée par les élus en matière de cohérence du projet de développement du territoire qui prend en compte les finalités du développement durable. Et donc j'ai un travail de coordination, d'incitation à la transversalité. Et puis j'ai un travail dans un secteur particulier qui est celui de la biodiversité.
Quelle est la plus belle avancée que vous avez vue depuis que vous êtes en fonction ?
Peut-être la prise en compte de problématiques transversales qui intègre l'eau et la biodiversité, alors que précédemment, on était dans des... D'abord, on ne prenait pas en compte la biodiversité, mais qu'en général, on est dans des politiques sectorielles, pas du tout transversales. Et là, en ce moment, il y a des changements très importants, très intéressants.
Et quelle est la plus grande complexité à votre sens ?
C'est la même chose, c'est la transversalité qui est très difficile à mettre en œuvre.
Un exemple concret ?
La cohérence des politiques publiques, si vous voulez faire en sorte que... un programme concernant le développement économique ne nuise pas à la préservation de la biodiversité ou que la politique des transports prenne en compte les questions énergétiques. Vous voyez, c'est toute la...
Là, vous parlez du TGV, par exemple.
Pas spécialement, mais plutôt parce qu'on n'a pas compétence en matière de TGV, nous, mais sur nos transports urbains.
L'ensemble de la conférence peut se retrouver sur le site du muséum.
Le site du muséum, dans 3-4 mois, puisqu'il y aura tout le cycle qui sera diffusé, donc www.mnhn.fr.